Promis, cette fois, il y aura des ailes dans cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute de Clic Clac Topette sur Radio G. Pour les habitués, vous savez, mais pour les nouveaux, laissez-moi vous présenter le seul programme FM partenaire d'Anjou Tourisme pour mettre à l'honneur l'histoire et le patrimoine angevin. Justement, l'Anjou et l'aviation, c'est une très grande histoire d'amour. C'est à Avrillé que le très célèbre aviateur Roland Garros a fait sa réputation. Et c'est dans la vallée de Rochefort-sur-Loire que René Gagné a fait voler les premiers avions en Anjou. Pour s'envoler vers ces histoires, je vous propose donc de faire un tour à l'espace Air Passion d'Angers-Marseille. Dominique Montel, un bénévole et aviateur, vous fera la visite. Plus tard dans l'émission, vous retrouverez Luc d'Entre les Pages pour son troisième épisode sur la vie d'Hervé Bazin. On entendra également Eva Tespliquet qui continuera à nous parler de l'histoire du féminisme. Elle sera comme toujours accompagnée de son papa, Jérôme, que je remercie. J'ai d'ailleurs envie de remercier toutes les personnes qui gravitent autour de Clic Clac Topette. Raphaël, Calixte, Luc, Thomas, Sophie, Cisco et tant d'autres. Mais j'ai aussi et surtout envie de vous remercier, vous. Vous qui faites de Clic Clac Topette parmi les émissions les plus écoutées de la station de Radio G. Et j'ai justement quelque chose à vous proposer, car Clic Clac Topette vit ses derniers instants sur les ondes. Dans deux semaines, Clic Clac Topette sera diffusé pour la dernière fois. Pour finir en beauté, je vous propose donc de conclure avec une émission spéciale et de faire gagner 4 d'entre vous le lundi 21 juin, entre midi et 2, un concours avec 4 lots contenant... deux entrées au château de Beaugé, deux entrées au château du Plessis-Massé, deux au musée Joseph Donnet de Beaufort et deux aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine. Mais aussi de nombreux cadeaux, comme l'apéro-jeu de l'Anjou de Douceline Ménard, Vive l'Anjou libre de Calix Denis Gremont, dédicacé par Monseigneur, attention, des cartes de LR Création, des goodies du bistrot Chauvin, une tasse, le chat selfie, bref, beaucoup de choses en échange d'un seul message avec votre nom et numéro de téléphone via les réseaux sociaux de Clic Clac Topette, Instagram et Facebook. Les gagnants seront tout simplement tirés au sort et appelés en direct pendant l'émission du 21 juin. Alors inscrivez-vous. Et maintenant, on écoute le billet indépendantiste de Calixte de Nigremont à retrouver chaque samedi dans Ouest France.
Salut, c'est pour un sondage où, à la fin, c'est toujours l'Anjou libre qui gagne. Alors que la campagne pour les élections régionales bat son plein, voici que ressurgit notre éternel rocher de Sisyphe, le démembrement des Pays de la Loire. Une fois encore, c'est à la Loire inférieure et à ses rattachistes que nous devons le retour de cette problématique lancinante comme une rage de dents qui, je vous en préviens, arrivera à sa conclusion habituelle « Vive l'Anjou libre !». Le dernier, en date, car sans doute pas l'ultime, épisode, met en scène trois associations. À la Bretonne, Unis pour un Grand Val-de-Loire et Décidons en Vendée, qui, par le truchement d'un financement participatif de 8 100 €, ont fait réaliser par l'IFOP, on ne se mouche pas du coude, un sondage des plus sérieux sur les conséquences de la sortie de la Loire-Atlantique de la région Pays de la Loire. D'où il ressort que, entre autres, 67% des Ligériens voteraient pour le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. En conséquence de quoi ? 64% des Vendéens seraient favorables à ce que la Vendée devienne une région à part entière, quand 47% des habitants des trois autres départements seraient favorables à leur rattachement à la région Centre-Val de Loire, 54% d'entre eux souhaitant la formation d'une nouvelle région, les regroupant. Passe encore que la Vendée se prête pour la Nouvelle-Calédonie ou la Corse, l'insularité en moins. Personne ne s'étonnera de voir la Bretagne légitimement réunifiée. Il me prend quand même le regret que l'indépendantisme angevin n'ait pas été sollicité pour joindre ce collectif tripartite. Nous eussions royalement payé notre écho. Chacun sait que notre mouvement est financé en sous-main par la Russie, les grandes compagnies pétrolières et la jouvence de l'abbé Souris. Puisqu'il apparaît que les réponses apportées par l'IFOP sont exactement celles qu'attendaient les commanditaires. Je ne doute pas une seconde que la majorité des Ligériens consultés auraient, dès lors, exprimé leur désir profond que le Maine-et-Loire devienne un État souverain, comme nous le demandons, peut-être même que, avec quelques questions judicieusement troussées, nous eussions obtenu que les sondés trouvent normal qu'on nous rende Naples et Jérusalem.
Bonjour Dominique Montel.
Bonjour à vous.
Vous êtes le chargé de communication de l'espace Air Passion, le musée de l'aéronautique légère de l'aéroport d'Angers-Marseille, 3500 m² qui expose 190 appareils ayant fait l'histoire de l'aviation, entre autres en Anjou. Déjà Dominique, qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes vous-même pilote ?
Alors pour ma part, je suis pilote, mais malheureusement pas pilote professionnel parce que j'ai un petit souci aux yeux qui m'a empêché d'épouser cette belle carrière. Mais je vole à titre privé depuis 49 ans.
Alors pour revenir justement sur le musée Air Passion, aujourd'hui c'est un incontournable de l'histoire de l'aviation, presque unique en Europe, et tout a commencé en 1981 à cause d'un simple barbecue.
C'est une histoire de soirée de convivialité barbecue et le club de planeurs. À l'époque, malheureusement, il n'y avait pas encore de notion patrimoniale là-dessus et donc il pensait utiliser un vieux planeur en bois qui ne volait plus pour alimenter ce barbecue. Et là, Christian, qui est donc le fondateur du musée, a dit il est hors de question de prendre ce planeur parce que c'est mon premier monoplace. Et donc je ne veux pas que vous le brûliez. Donc il y a eu un échange de discussions et puis il a proposé un deal tout à fait honnête, à savoir qu'il récupérait le planeur et en échange, il fournissait le bois pour le barbecue.
Et pour notre plus grand plaisir, ce planeur Nord 1300 numéro 209 FKX, c'est ça qu'on dit ?
Ça doit être ça, oui, India Charlie à la fin.
Il a été sauvé et aujourd'hui, donc presque 40 ans plus tard, en tout cas en 2019, vous avez accueilli 29 000 visiteurs. Qu'est-ce qui attire autant de monde selon vous ?
Je pense que l'aviation fait toujours rêver. C'est une aventure humaine qui est encore jeune, hein, puisqu'elle a débuté à la fin du 19e siècle et elle a connu un essor particulier. C'est un musée qui se veut vivant. Donc on expose environ 40 appareils dans nos 3500 m² et puis il y en a plus de 150 dans les réserves à côté. Mais c'est un musée qui se veut vivant avec des restaurations, une forte importance que nous donnons à la conservation, la préservation du patrimoine aéronautique et puis aussi bien des avions que l'on souhaite faire voler et donc le public découvre ça. On essaye d'avoir également une particularité ludique avec des parcours découvertes. Cette année également, on travaille sur un escape game aussi. L'idée, c'est de se renouveler, d'attirer, de séduire quelque part aussi, avec également des privatisations que l'on propose aux entreprises, à des associations.
Pour des séminaires ou des choses comme ça.
Exactement.
Et justement, toujours dans l'idée de séduire un nouveau public, ou des passionnés ou des néophytes, c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Cette année, vous avez deux nouveaux modèles. Un qui s'appelle l'Albatros, un engin qui est fait avec une barque et des ailes volantes, c'est ça ?
C'est une barque ailée, en effet. On peut dire ça. Imaginée en 1868 par un Breton qui s'appelle Jean-Marie Lebris. Il avait fait au préalable une première barque qu'il avait fait tirer sur une plage à Douarnenez par des chevaux qui a décollé. Et donc là, c'est la réplique, la seule réplique de l'Albatros, parce que l'original avait été détruit. Et une association bretonne nous a proposé, parce que autrement, elle allait également connaître le même funeste destin. Et donc, bien évidemment, on l'a accueillie avec ses 18 mètres d'envergure. Eh bien, elle est imposante. Elle nous fait rappeler aussi quelque part les dessins de...
De Vinci.
De Vinci.
Exactement.
Et puis également les halls de Clément Ader.
Alors, il y a aussi le R100 numéro 1, donc le tout premier qui a été construit. Un appareil fait de bois et de toile qui peut aller jusqu'à 220 km/h. Vous le sortez des fois ?
Alors, ce planeur-là ne va plus jamais voler. Il est suspendu, donc désormais. Mais il ne volera plus parce qu'il est classé monument historique. Il a vécu une carrière incroyable. À la fin de la guerre 39-45, les Américains ont proposé un nouveau championnat du monde de vol à voile, la vie reprenant, aux États-Unis, à Wichita, au Texas, et la France voulait être présente. Eh bien, une équipe
est partie là-bas
avec un planeur qui venait juste d'être terminé. Il avait fait que 3 vols et il a participé à ces championnats du monde. Il s'est très bien comporté. Et le problème, c'est que la délégation française n'avait plus d'argent pour le ramener dans l'Hexagone. Et il est resté confié à l'ambassade de France aux États-Unis. Des pilotes français, des pilotes américains ont volé dessus. Et puis au final, il a été vendu aux États-Unis, où il a connu une deuxième carrière, puis une troisième carrière au Canada.
Et jusqu'en 2009, c'est ça ?
Et il a volé jusqu'en 2009, en effet. Les Canadiens avaient amélioré la verrière pour faciliter, améliorer sa pénétration dans l'air. Et 2013, eh bien, on reçoit un appel téléphonique de ce club canadien qui nous dit bah voilà, on a un planeur français au fond du hangar qui vole plus, est-ce que ça vous intéresse ? Et c'est quoi ? C'est le R100 numéro 1. Ah bah oui. Donc ils nous l'ont cédé, gracieusement, on a payé le transport quand même. Et puis on l'a remis comme il était en 1947, donc, avec à nouveau ses couleurs, son immatriculation de l'époque, la verrière de l'époque, qui a été refaite complètement. Et en 2016, il était classé monument historique. On est particulièrement fiers de le présenter en 2021 au public.
Et quasiment presque chaque pièce ici au musée Espace Air Passion d'Angers-Marseille a cette histoire, des histoires incroyables. Un musée, un atelier réparation aussi, une vingtaine d'appareils qui volent. Dominique Montel, avant de terminer, est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs où aller chercher les informations pratiques à propos de votre musée, de musée Espace Air Passion de l'aéroport d'Angers-Marseille, pour justement venir découvrir ça, comment ils se renseignent ?
Eh bien, écoutez, je vous invite à prendre le numérique ou bien vous téléphoner au 02 41 33 04 10. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf le lundi, alors l'après-midi uniquement, de 14h à 18h. Et le dimanche de 15h à 19h.
Merci beaucoup Dominique Montel. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'espace Air Passion. Et merci justement d'avoir partagé cette passion sur Radio G et Clic Clac Topette.
Topette.
Alors pour ma part, j'ai tellement aimé l'espace Air Passion que j'y retournerai dès samedi prochain. Maintenant, tout autre sujet. Si je vous dis Simone de Beauvoir, je suis sûr que ça vous parle. Et va t'expliquer, avec Jérôme son papa, l'histoire du féminisme d'après-guerre. Alors non, ce n'est pas de l'histoire angevine, mais eux, ils sont tous les deux angevins, et ce qu'ils racontent est toujours très intéressant.
T'inquiète, Eva t'expliquer.
Salut Eva.
Coucou papa.
Eh, tu ne vas pas t'en sortir comme ça, hein. Je veux savoir la suite de ta petite histoire du féminisme.
Je pensais que c'était un sujet compliqué à éviter.
Que tu rends toujours aussi passionnant, ma fille adorée. Tu en étais rendue à l'après-guerre, je crois.
En effet, si le 19e siècle et le début du 20e siècle avaient permis de grandes avancées, en termes de droits civiques notamment, la place des femmes dans la société était encore loin d'être l'égale de celle des hommes.
Malgré l'importance du travail des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Eh oui, même si chacun des grands conflits du 20e siècle ont mis en avant l'importance du travail des femmes dans la société, celles-ci se sont malheureusement vues remises une place de femmes au foyer à la sortie des guerres, notamment dans un but de repeuplement.
Ah ouais, c'est un peu limitant comme rôle quand même.
Heureusement, une deuxième vague renaît, notamment en France grâce à Simone de Beauvoir et son fameux ouvrage « Le deuxième sexe » paru en 1949, dans lequel elle dénonce la place secondaire de la femme, rétrogradée en sa fonction biologique.
La France en tête pour une fois !
Oui, tout à fait. Ce sont ces écrits qui vont inspirer la deuxième vague en Europe, mais aussi aux États-Unis, où, dès les années 60, de grands combats vont être gagnés. En 1963, dans la mouvance des « Women's Lib », le président Kennedy remet un rapport mettant en exergue l'inégalité femmes-hommes, donnant une impulsion au vote de nombreuses lois libératrice.
Et en France ?
Durant toutes les années 60, des mouvements féministes se forment, inspirés par les écrits de Beauvoir et les luttes anglo-saxonnes.
Petite anecdote personnelle, en 1963, après leur mariage, ton grand-père devait donner son autorisation à ta grand-mère pour qu'elle puisse avoir son propre compte bancaire.
Effectivement, le droit à disposer d'un compte en banque et à signer un contrat de travail sans le consentement de son mari est obtenu en 1965, puis une première loi sur le droit à la contraception en 1967.
C'est incroyable, c'était hier !
Oui. En 1970 est créé le MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Ces mouvements militent pour les droits des femmes à disposer de leur corps, dénoncent le patriarcat, les violences faites aux femmes et le viol, prônent une émancipation de la femme au sein du foyer et obtiennent notamment le droit au divorce par consentement mutuel en 1974.
Il était temps, hein, non ? La libération sexuelle et le droit à disposer de son corps, j'ai l'impression que ce n'est toujours pas trop gagné, hein.
Et oui, tu as tristement raison. En 1971, Simone de Beauvoir écrit le manifeste des 343, pétition signée par 343 femmes ayant été obligées de se faire avorter dans l'illégalité avec tout ce que cela comporte comme risque. Cela aboutira à la fameuse loi contre l'interdiction de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, de Simone Veil en 1975.
Quelle avancée !
Cette année verra d'ailleurs aussi la date du 8 mars, officialisée comme celle de la Journée internationale des droits des femmes.
Que l'on célèbre activement tous les ans, nous. Ce mouvement se poursuit ensuite dans les années 80 ?
Oh, ce n'est pas si simple, papa. Au contraire, des mouvements antiféministes vont émerger, critiquant cette seconde vague, dénonçant une régression pour les deux sexes. Et les années 80 deviendront aussi celles de la femme objet, un symbole de richesse pour l'homme.
Ah, pas cool.
D'où une troisième vague à partir des années 90.
Tu nous teases là, Eva. On veut savoir.
T'inquiète, elle va t'expliquer.
Et l'histoire continue de s'écrire aujourd'hui. Allez, revenons en Anjou avec Hervé Bazin, un incroyable romancier et même académicien, qui, comme va nous le dire Luc, a laissé une œuvre impressionnante bien au-delà du simple roman de Vipère au Poing. C'est le troisième épisode sur quatre de la mini-série sur la vie d'Hervé Bazin.
Un Bazin sinon rien, une micro-série produite par l'émission Entre les pages, épisode 3, une œuvre. Quand on prononce le nom d'Hervé Bazin, immédiatement est cité le roman Vipère au Poing. Mais l'homme n'est pas l'auteur que d'un seul roman. Sa carrière littéraire s'est étendue sur presque 50 ans et il a écrit pas moins de 16 romans, 3 recueils de poèmes, 3 recueils de nouvelles et 4 essais. Sa production romanesque est totalement intriquée dans sa vie personnelle et si Vipère au Poing relate la si brève période qu'il a réellement vécue avec ses parents, son deuxième roman, par exemple, « La tête contre les murs », évoque son internement à St. James suite à un accident de voiture. Cette œuvre, qui indéniablement a rencontré le public, plus qu'au style qu'on peut qualifier de classique, tient à la capacité d'Hervé Bazin à raconter une époque, de nous faire ressentir une ambiance, un climat. On n'est pas loin d'un regard sociologique. On pourrait facilement le rapprocher d'auteurs du XIXe siècle, Flaubert ou Zola, par exemple. Il n'est pas de ces aventuriers de l'écriture, ces dépoussiéreurs comme Boris Vian qui publiait « L'écume des jours » en 1947. Il n'est pas non plus comme Georges Perec qui publiait « La disparition » en 1968. Lui, juste un an avant, publiait « Le matrimoine » qui décrit les désillusions d'un couple qui s'est marié en 1953. Mais cette œuvre a rencontré aussi la notoriété et la notabilité, même s'il rate le Goncourt avec « Vipère au Poing ». Il sera consolé 10 ans plus tard en rentrant à l'Académie Goncourt, dont il deviendra le président en 1973. Et ce n'est pas rien. Être à la manœuvre d'une telle institution n'a pas été pour lui déplaire. Les intérêts en jeu sont considérables. Un Goncourt ne pèse pas moins, au minimum, que de 400 000 exemplaires du roman primé. C'est une manière de revanche, et pendant sa présidence, il n'a pas hésité à dépoussiérer l'Académie. Il a été à l'origine d'innovations dont l'une perdure, le Goncourt des lycéens. Cela n'a pas empêché de continuer d'écrire, toujours avec un regard aigu sur son temps. L'École des Pères, publiée en 1991, raconte les interrogations d'un père autour de l'éducation de son fils. Comme son père, il avait un vrai intérêt pour la science. Cela donne en 1994 son dernier roman, Le neuvième jour, qui ne peut que résonner fortement aujourd'hui, puisque le sujet en est un virus de la grippe qui contamine l'humanité. Tiens donc, ça ne vous rappelle rien ? Fin de la troisième partie, un Bazin sinon rien, une réalisation de Entre les pages. Musique Ghislaine Valdivia au violoncelle sur l'ouverture de Cachemire de Led Zeppelin par l'Orchestra Sinfonica de Chancey.
Série à retrouver sur l'onglet Podcast Plus du site de Radio G. Je rappelle donc que lundi 21 juin, dans 2 semaines, sera la dernière émission de Clic Clac Topette et que pour l'occasion, je vous fais gagner 4 lots incroyables. D'ailleurs, d'autres surprises vous attendent pendant l'émission avec des invités surprenants dont je tais encore l'identité pour le moment. Si vous voulez gagner, il vous suffit de m'envoyer un message avec votre nom et numéro de téléphone sur les réseaux sociaux de Clic Clac Topette évidemment, Facebook et Instagram, vous pouvez aussi laisser un mail à clicclactopette@gmail.com. Rendez-vous dans 2 semaines pour cette émission spéciale à 13h, entre midi et 2. Prenez soin de vous et topette !